Session de théologie sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 24 août 95, deuxième conférence.
Ce soir, il n'y aura pas de conférence, puisqu'il y a exposition du Saint-Sacrement. Alors, je fais une conférence qui sera peut-être un peu plus longue. Oui, alors, je ne vais pas trop entrer dedans. Si, que pensez-vous de la prédiction de Nostradamus qui prévoit, entre autres, qu'en 1986, la France sera entièrement engloutie par les eaux? Hein, quelqu'un qui veut dites là, parce que vous êtes très calé là-dedans. Non, je crois que il paraît que tout ce qu'il a prédit s'est produit.
Quoi? Il y a un livre qui vient de sortir de Jean-Charles de Pontbrune.
Oui.
Deuxième livre qui vient de sortir.
Je crois que c'est beau. C'est pas dit d'une façon aussi nette. Du reste, c'est vrai. Oui, c'est toujours dire. C'est intéressant de savoir qu'en 1986, hein, 1996.
99, le grand roi des frayeurs.
Quoi?
99, le grand roi des frayeurs.
Oui, c'est l'année consacrée au père. C'est très difficile. On n'a jamais dit qu'il était vraiment inspiré, qu'il fallait considérer ça comme un livre inspiré. D'autre part, on a toujours considéré qu'il y avait là quelque chose de curieux, d'étonnant. Vous avez dit que la description relative aux exécutions, à l'exécution, était des rêves sataniques. Vous précisez. Attention. Oui. Vous comprenez? J'essaie de comprendre. Ce qui est très difficile. Vraiment. Je lis l'Apocalypse depuis mon noviciat. Ça fait depuis 1930. Et je lisais l'Apocalypse pour me donner du courage quand au noviciat c'était plus dur. Et c'était un nectar extraordinaire. Un nectar qui vous donne une espérance, et le grand livre de l'espérance. Parce qu'on compare les petites difficultés qu'on a en face du grand mystère de l'Église dans lequel on est engagé. Alors ça vous donne une force énorme. Puis j'ai accepté au début de ne pas comprendre, vous savez. J'aime beaucoup lire des livres inspirés auxquels je ne comprends rien. Parce qu'au moins, on fait un acte d'humilité, on se met à l'école de Dieu aussi. Ça fait suivre des cours de très grands professeurs. C'est quand même plus agréable que suivre les cours de petits professeurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend rien, mais un cours, on comprend tout. On peut se dire, oh, je pourrais le faire, pourquoi je suis là? Tandis qu'au moins, quand je comprends pas grand-chose, je me dis, c'est bien que je sois là, parce que j'aurais jamais pensé ça. Donc, c'était le... À Fribourg, c'est un rappel, c'est très différent de ce que je dis ici, mais c'est quand même très beau. À Fribourg, quand je suis arrivé en 45, je me suis trouvé devant un grand dominicain espagnol, Ramirez. impressionnant. Il me faisait penser aux très grands dominicains Bagnès, les dominicains de Sainte Thérèse. Je l'ai connu trois mois. Des choses étonnantes. Je ne lui demandais pas, mais choses étonnantes. Tous les soirs. D'habitude, il est resté dans le silence complet. Il faisait frapper à ma porte. Et on discutait philosophie, métaphysique. Et moi, je posais toutes mes colles. Toutes les questions que je pouvais avoir. Puisque j'arrivais à Fribourg pour enseigner la philo. Quand il est parti pour aller à Salamanque, recteur de l'université de Salamanque, point de vue dominicain, il est enterré à Salamanque. J'ai fait le pèlerinage exprès pour prier sur sa tombe. Il avait dit, promettez-moi ceci, vous ne diminuerez jamais la force de vos cours. Au contraire, pour aller le plus loin possible au point de vue philosophique, vous enseignerez et vous continuerez d'enseigner la métaphysique, promettez-le-moi. Vous serez haï, parce que si on enseigne la métaphysique, des quantités. Rejette. Tu trouvais que ça, c'était beau, d'un frère aîné, vis-à-vis d'un frère cadet, il avait quand même 20 ans de plus que moi. Largement. Et c'était un grand, à la fois un excellent religieux. Alors il me disait, en riant, quand je fais des recensions, je ne dis pas sur qui, sur tel philosophe, sur tel... Et que ça m'agace prodigieusement. Je fais ces recensions en latin, parce qu'en latin, on dit les choses avec plus de mordant qu'en français ou en espagnol. Alors je trouvais ça, c'était, vous voyez, vraiment, et par souci de vérité, par un désir de vérité, c'était pas du tout par méchanceté, il était bon, foncièrement bon, mais un amour de la vérité implacable. C'était vraiment ce que Aristote disait, Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. C'est difficile, vous savez, de maintenir cet amour de la vérité à travers tout quand on sait que on est au milieu de loups rapaces qui risquent de se jeter sur vous dès qu'on dit la moindre chose qui n'est pas dans le sens où on doit aller. C'est difficile. C'est pour ça que j'aimais bien de rencontrer quelqu'un d'aussi net, aussi merveilleux. Alors, vous comprenez que les trompettes, je vous le disais, le symbolisme des trompettes, c'est le côté de l'exécution, l'exercice. On se jette à l'eau. On a appris les exercices de la nage, on se jette à l'eau. Bon, autre chose est apprendre les exercices, autre chose est se jeter à l'eau. Et c'est vrai, il y a les sauts, ça, c'est les choix de Dieu. Et que Dieu choisit de nous sauver à travers la lutte. C'est un choix extraordinaire de la part de Dieu. Il nous fait une confiance énorme. Parce que si Dieu ne nous aimait pas avec un tel amour, il aurait dit, nous sommes beaucoup trop petits, beaucoup trop faibles, on va les remettre dans l'Éden, avec les gros chiens pour les garder. Non, pas du tout. Il nous jette. Et parce que, de fait, c'est de la lutte. L'exécution est très difficile à voir d'où ça vient. Alors l'Apocalypse nous éclaire sur un aspect, l'aspect négatif que Dieu a laissé aux démons, aux esprits malins. Dieu leur a laissé, non pas une autorité. Le démon n'a aucune autorité sur nous. Mais Dieu lui a laissé un grand pouvoir. Et symboliquement, nous est prophétisé ce pouvoir des démons. Et nous est prophétisé de cette manière très particulière qu'on a essayé de voir. Qui fait, vous voyez, ce que je vous dis, on ne peut pas chercher de recettes dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse nous éclaire. Parce que Dieu, par sa sagesse, met tout en ordre. Le démon, par sa haine, désagrège. La haine n'organise rien, mais désagrège tout. C'est propre de la haine. Et le démon, lui, agit toujours avec la jalousie et la haine. Il est terriblement jaloux. Il attaque paix massif. Il a perdu le sens de la qualité, le démon. Et c'est toujours massif, c'est toujours grossier, c'est toujours matériel, quantitatif. C'est le nombre qui compte. C'est ça toute l'œuvre du démon. Alors, je disais, vous voyez, qu'il y avait dans ce l'édit pour la sixième trompette, il y a quelque chose de terriblement anarchique. Quand vous essayez de regarder les différents symbolismes et l'ordre de ces différents symbolismes, je dis, c'est anarchique comme des rêves sataniques. Oui, comme des rêves sataniques. C'est des symboles imaginatifs qui ne font pas toucher le mystère. Puisque le démon, c'est plutôt de cacher le mystère que de dévoiler. Alors que toute la révélation qui se fait sous le souffle de l'Esprit-Saint est faite pour nous dévoiler le mystère, nous permettre de dépasser l'imagination pour atteindre le mystère. Le démon veut faire de nous des prisonniers de l'imagination. C'est sa grande tactique. C'est pour ça que c'est si difficile à analyser. On ne peut donner qu'une vision générale de ces six trompettes, de ces sept trompettes. Point de départ, le terme. Et tout cela dans la lumière des sept sceaux. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de ce qu'on dit intermède, chapitre 10, chapitre 11. Ce que j'intitulerai d'une manière théologique, le surcroît de la grâce. Nous n'avons pas choisi le moment où nous naîtrions dans le monde. Dieu ne nous a pas demandé, du moins pas à moi. Dieu ne nous a pas demandé à quel moment on désirait vivre. On est né dans ce siècle si extraordinaire, si merveilleux et si terrible. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est pas commode, hein, dans ce siècle, de maintenir une ligne droite, celle de l'Esprit-Saint, pas la nôtre, celle de l'Esprit-Saint. Qui n'est pas du tout une ligne droite à la manière univoque. C'est une ligne droite par l'amour et dans l'amour, beaucoup plus exigeante que toutes les exigences matérielles. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, et c'est ça, je crois, qu'on doit retenir, ma grâce seule te suffit. Quand vous voyez la sixième trompette, ma grâce seule te suffit. C'est très fort, ça, c'est symbole qui nous dit ça. Et ça fait partie du gouvernement divin. Et quand on est à la sixième trompette, qui est si véhémente et si forte, il est intéressant de comprendre quel est ce surcroît de grâce. Quel est ce contact particulier de Jésus avec Jean? Que signifie ce petit livre? Alors, je me suis posé la question, et je vous le donne à titre de recherche, cherchez vous-même. Je me demande si ce petit livre, ce n'est pas Jésus qui réclame de Jean d'écrire un évangile. Le petit termine toute la révélation. C'est l'évangile de Jean. Jean n'a pas encore décrit d'évangile. Il semble bien, parce que toutes les hypothèses d'un Jean qui a écrit l'évangile à Jean avant, qui n'est peut-être pas le 10, bon, je laisse tomber toutes ces hypothèses. Je prends ce que l'Église nous donne. Et ce que l'Église nous demande de regarder d'abord. Elle laisse la liberté aux chercheurs, c'est sûr. Mais elle ne bouge pas. Je me souviens. C'était le bon père Braun, qui était un très bon exégète dominicain à Fribourg, sur Saint-Jean. Je l'aimais beaucoup, il a écrit du reste des gros livres d'exégète sur Saint-Jean. Et le père Braun, venant me voir, on était très liés. On s'aimait beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup parce que c'était un exégète sur Saint-Jean. Et puis qu'il était un saint homme. C'est lui qui a formé le roi Baudouin, spirituellement. Le roi Baudouin était à ce moment-là à Genève, et le père Braun allait le voir régulièrement. Quand il était dans une situation extrêmement difficile, la situation de son père en Belgique à ce moment-là. Et c'était lui qui était pratiquement son théologien, son directeur spirituel. Et c'est comme ça qu'il est parti, quand le roi Baudouin a été nommé roi de Belgique. Le père Braun a quitté Fribourg pour être l'aumônier. Et alors, quand on essaie de comprendre l'évangile de Jean, très bien que Jean a dû fournir énormément de documents de ce qu'il savait à Luc. J'en suis sûr. Une de mes curiosités quand je serai dans le ciel, c'est de regarder tout ce que Jean a communiqué à Luc. Oui, j'aimerais avoir ces crayons lumineux pour souligner sous la conduite de l'Esprit Saint, mais je ne peux pas le faire, sous la conduite de l'Esprit Saint, en crayon lumineux, tout ce qui vient de Jean. Les bons exégètes de Luc et de Jean le reconnaissent. De Jean et de Marie. Et il y a des choses que Jean n'a pas communiquées. Il les a gardées pour lui. Il n'a pas tout communiqué. La preuve, c'est que l'évangile de Jean n'est pas l'évangile de Luc. Et Jean le savait. Je crois que quand on a connu très bien quelqu'un, qu'on a vécu de ses secrets, il y avait trois apôtres qui étaient particulièrement liés à Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et parmi les trois, il y en a un qui est particulièrement lié à Jésus, Jean. Le témoignage, le mystère de l'institution de l'Eucharistie, et puis la croix, où Jésus a pour Jean un geste unique qui montre bien ce qu'est le disciple bien-aimé. Jean a reçu énormément de Marie. Puisque selon l'évangile de Jean, après Cana, Marie ne retourne pas à Nazareth, mais suit Jésus à Capharnaüm. C'est dit explicitement dans l'évangile de Jean. On est donc en présence de la première sainte femme qui suit Jésus dans sa vie apostolique. Et à partir de Marie, les autres sont regroupés. Et Marie a suivi Jésus dans toute sa vie apostolique. Et vous comprenez que Marie a compris la vie apostolique de Jésus d'une autre manière que les disciples. Et si Marie est donnée à Jean, c'est pour que Jean puisse entrer plus profondément dans l'intimité avec Jésus et puisse découvrir plus profondément tout l'enseignement du Christ. Et je crois que Jean, ayant reçu tous les secrets du cœur de Marie, garde ça dans son cœur. Il a sans doute prêché, mais il ne les a pas écrits. Je me souviens de la parole du Père Finet à propos de Marthe, de Marthe Robin. Il me l'a dit. Je n'écrirai jamais de livre, si, même si Marthe meurt avant moi, sur la vie de Marthe. Je la connais trop bien. Je ne pourrais pas. Alors je crois que Jean, intérieurement, a dit qu'il y a une trop grande intimité à travers le cœur de Marie vis-à-vis de Jésus pour écrire un évangile. Et donc, il a décidé de ne pas écrire. C'était normal. Il a tout communiqué à Luc. Luc savait bien mieux le grec que Jean. Jean est un araméen. Mais Jean, partant d'Éphèse à cause des premières persécutions, doit quitter Éphèse à Patmos. Et là, l'Esprit Saint l'attend. Il reçoit cette grande révélation. On aurait aimé le petit commentaire du théologien Jean. Il n'a pas fait de commentaire. Il a reçu ça avec force et nous l'a communiqué dans la fidélité. Puis il y a un moment impressionnant. Le moment de la sixième trompette que Jean vit à sa manière. Puisqu'il doit quitter Éphèse, il doit venir à Patmos. Et qu'est-ce que là, qu'est-ce qui se passe? Il voit Jésus qui lui donne un petit livre, langage symbolique. Ceux qui vivent la sixième trompette ont besoin d'un enseignement et d'une lumière plus forte que tous les autres. Et Jésus lui donne ce petit livre qu'il doit avaler. Ça, c'est la meilleure des exégèses. C'est la méthode du Saint-Esprit. Manger le petit livre. L'évangile de Jean, on doit le manger. On doit l'assimiler. Reçoit ce petit livre directement du Christ. Et ce petit livre, il est amer aux intestins. Il est doux au palais. Et Jean, à partir de là, doit recommencer. On doit continuer sa vie apostolique. Or, si vous regardez attentivement l'évangile de Jean, dans la lumière de l'Apocalypse, et si vous regardez l'Apocalypse dans la lumière de l'évangile, ce qu'il faut faire, parce que c'est plus facile de comprendre l'évangile que l'Apocalypse, mais l'évangile de Jean réclame l'Apocalypse. On voit qu'en effet, l'évangile de Jean nous montre, d'une part, le mystère de l'Eucharistie, d'autre part, le mystère de Marie. L'évangile de Jean nous montre en très très grande lumière, les trois alliances. L'alliance avec le corps du Christ dans l'Eucharistie, l'alliance avec Marie, l'alliance avec Pierre. Et c'est pour cela que le fruit de l'évangile de Jean, c'est de nous montrer que si on est vraiment disciple du Christ, au milieu des plus grandes tribulations, on demeure témoin du Christ, témoin par l'Eucharistie, témoin en Marie, en l'Eucharistie et en Marie. Oui, dans l'évangile de Jean, il y a cette révélation étonnante de l'Eucharistie, la parole de Dieu. C'est vraiment l'évangile de l'Eucharistie. Et on pourrait comprendre que tous les repas qui ponctuent l'évangile de Jean sont tous des symboles par rapport au repas eucharistique, par rapport au mystère de l'Eucharistie. Vous voyez, les cinq repas qui ponctuent l'évangile de Jean, Cana, la multiplication des pains, ce repas où 5000 hommes suivent Jésus, sans compter les femmes, qui sont toujours plus nombreuses en pèlerinage. Donc on peut dire 10 000 femmes. Et les enfants, qui sont encore plus nombreux, 15 000. Ça doit être une procession extraordinaire. Je crois que c'est au terme de la première année de la vie apostolique de Jésus. Ces deux repas qui sont les extrêmes, le repas de noces, qu'on prépare longtemps d'avance, et un repas improvisé, pas seulement un pique-nique, mais c'est Jésus qui donne tout, les cinq pains et les trois poissons. Puis vous avez le repas d'action de grâce, chapitre 12, ce fameux repas où Marie, la sœur de Lazare, verse sur les pieds de Jésus ce parfum d'un grand prix. Et la colère de Judas. C'est la première fois où Judas explose. Vous avez ensuite le lavant des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Jean ne la donne pas, il l'a donné à Luc. Et puis, ce dernier repas, après la résurrection, le petit repas anglo-saxon du matin. On prend des poissons et du pain en surabondance. Cinq repas. Il y avait toute la théologie racontée d'un point de vue symbolique. Très très beau ça. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'Eucharistie, du pain de vie. Je suis le pain de vie. Et l'évangile de Jean, c'est aussi l'évangile où Jésus regarde Marie en lui disant « Femme, Cana, la croix ». Si vous regardez attentivement la description des deux témoins, vous reconnaissez très nettement Élie et Moïse de l'Ancien Testament. Mais quel est le nouveau Élie? Quel est le nouveau Moïse? Le nouveau Moïse, c'est Jésus instituant l'Eucharistie. La nouvelle législation, c'est l'Eucharistie. La nouvelle loi, c'est l'Eucharistie. et le nouveau Élie s'est marié. Alors vous voyez cette chose très curieuse, que pour résister, pour être vainqueur en face de la sixième trompette, c'est l'évangile de Jean qu'on doit manger. Et cet évangile nous fait comprendre que nous devons vivre de ces deux alliances, l'Eucharistie et Marie. Et que ces deux alliances qui nous donnent une force unique qui fait que on reste fidèle n'empêche pas qu'au terme on vive le même mystère que Jésus, martyr d'amour. Je crois, j'interprète, je le sais en disant ça, mais chercher une autre interprétation. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Tandis que celle-là, elle me semble ce que nous vivons actuellement. L'évangile de Jean devient pour nous une nécessité de vie chrétienne. Il faut tout reprendre, notre vie chrétienne, dans la lumière de l'évangile de Jean. Voilà ce que l'Apocalypse nous demande. Et en face d'une exégèse de plus en plus scientifique, d'une exégèse réservée à des savants, l'évangile de Jean, on doit le manger, c'est-à-dire le prendre dans sa plus grande simplicité, parce qu'il n'y a que les enfants qui mangent les livres. C'est le propre des enfants, Et manger, ça veut dire ne pas discuter. Quand on vous sert un bon plat, vous n'allez pas prendre, faire une opération particulière pour discerner tout ce qui est dans ce plat. Analyser exactement tous les ingrédients. On vous demande de le manger. Or, la parole de Dieu est donnée pour être notre pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils analysent tous les ingrédients. Je n'ai rien contre l'exégèse scientifique, croyez-le bien, mais ça ne nourrit pas beaucoup. Je vous ai dit, je me suis donné la peine de lire le gros livre du Père Allot sur l'Apocalypse. Lisez-le si vous voulez, si vous avez le temps. Lisez-le. Un très gros bouquin. Ça ne va pas donner beaucoup de lumière. L'Apocalypse, toutes les apocalypses antérieures, surtout celle de Daniel, nous font entrer dans ce genre apocalyptique, c'est-à-dire dans cette manière dont l'Esprit Saint nous instruit par symbole, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il nous révèle d'une manière prophétique, sans nous donner la lumière totale. On comprend quelque chose. Des petits poteaux indicateurs. C'est ça l'Apocalypse, des petits poteaux indicateurs. Merveilleux. Quand on les reçoit, vous dites, c'est chapitre 10 et 11. La Bible de Jérusalem, la première édition de la Bible de Jérusalem. Notez que les chapitres 10 et 11 sont les plus obscurs de tout l'Apocalypse. Je ne sais pas s'ils ont remis ça dans les autres. Je prends la Bible Hostie. Hein. Je l'aime mieux. J'ai connu Hostie, c'était un paysan. Et Hostie faisait exactement comme un paysan. Il labourait tout droit, avec un cheval. Et labourait admirablement. C'est merveilleux de parler avec Hostie. Paris. Il faut beaucoup de courage. Vous n'avez pas un seul exégète, un et tout. Regardez le nombre d'exégètes qui ont travaillé avec de Jérusalem. Alors il y a une unité beaucoup plus profonde. Et puis c'est un paysan qui avance avec un respect pour la parole de Dieu, un amour de la parole de Dieu étonnant. Alors, c'est sûr qu'on peut se servir de la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem est faite pour être lit tout. Ici, c'est fait pour entrer le plus possible, le plus proche possible du texte grec. Je ne dis pas que tout est parfait, c'est évident. C'est des œuvres humaines. Mais c'est très beau aussi. Alors vous voyez, 10 et 11, ce n'est pas les chapitres les plus obscurs. Au contraire, c'est une grande lumière qui nous est donnée. Si ceci est vrai, que Jean a reçu du Christ lui-même, durant cette extase à Patmos, d'écrire un petit livre. Et symboliquement, Jésus lui fait comprendre. Qu'est-ce que ça doit être ce petit livre ? Le livre des secrets qu'il a reçus de Marie, qui sont les secrets du cœur de Jésus. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean est si différent. Je prends ce petit exemple. Le prologue de Saint Jean, vous savez combien on a écrit dessus ? Cherchez d'où ça vient. Il me semble que c'est un des grands secrets de Saint Jean. Commencer un évangile des secrets du cœur du Christ. Comment peut-il le commencer ? Cherchez. Comment peut-il le commencer ? Jean a été présent à la croix. Il a vu Marie debout au pied de la croix. S'il avait vécu ce que Jean a vécu, après la résurrection, j'aurais été demandé à Marie, quelle a été votre contemplation à la croix ? Je crois qu'on aurait tous fait ça. Pour rester debout en face de la souffrance du Christ. Il faut que l'Esprit Saint l'ait soutenu. Il faut que l'Esprit l'ait porté. Et Marie, à ce moment-là, est entrée dans la contemplation du mystère du Verbe qui assume la nature humaine. Le Verbe est devenu chair. C'est à la croix où le Verbe est devenu chair. Au sens fort, voyez, tous les théologiens disent le Verbe assume en premier lieu l'âme du Christ et par l'âme le corps. Et Jean a ce réalisme étonnant. Le Verbe est devenu egenetosarx. En grec, ça a une force étonnante. Il est devenu chair à la mort. Le cadavre du Christ, la chair, est directement uni au Verbe et subsiste dans le Verbe. Et tout est comme ça, dans un réalisme extraordinaire. Vous ne croyez pas que le prologue de l'évangile de Jean, c'est la contemplation de Marie à la croix. Comme j'ai beaucoup prêché à Châteauneuf pendant 17 ans, la retraite des prêtres, et j'ai commencé par prêcher l'évangile de Jean et le prologue. Et j'ai dit ça à 100. 120 prêtres qui étaient devant moi pour rentrer dans le prologue. J'ai une petite inquiétude après. C'est pas commode de prêcher aux prêtres. Maintenant que les laïcs font de la théologie, ça deviendra difficile aussi. Et maintenant que les femmes font de la théologie, ça deviendra encore plus difficile. Alors, voyant Marthe après, je lui ai dit, Marthe, est-ce que vous croyez que je peux dire ça? Que le prologue de Saint Jean, c'est la contemplation de Marie à la croix. Alors, Marthe, avec sa spontanéité, sa rapidité, mes pieds, mes pères, c'est évident. Hein? C'est merveilleux. Pour moi, c'était évident. Le prologue de Saint Jean, c'est la contemplation de Marie. Alors, vous voyez, c'est très fort, parce que c'est à travers la contemplation de Marie que je dois lire tout l'évangile. Qu'un prologue nous fait comprendre comment nous devons regarder un livre. Et ça fait comprendre que ce petit livre, qui est l'évangile de Jean, doit nous faire vivre de la contemplation de Marie. Alors on comprend les deux témoins, Marie, les deux dons de Jésus. Jésus. Crée de son cœur, Marie. Pour que nous puissions avoir la même mère que lui. Et donc, avoir la même langue maternelle que lui. Entrons maintenant dans la troisième dimension d'Apocalypse. Chapitre 12. Je dis bien la troisième dimension. Nous avons donc les sceaux, les trompettes, les signes. Et il y en a trois. Je ne sais pas pourquoi les exégètes mettent qu'il y en a sept. Il y en a que trois. Ils sont obnubilés par le chiffre sept. Je comprends. Mais il y a un chiffre encore plus subtil que sept, c'est trois. Puisque sept contient trois. Alors évidemment, oui, c'est là où on voit notre univocité. Sept sceaux, sept trompettes, sept signes. Non, biffé. Et maintenez trois signes. Pour bien comprendre que ce chapitre 12 nous fait entrer dans quelque chose de tout à fait différent. On pourra se demander pourquoi trois signes. Mais il y a trois signes. J'en peux rien. Ils sont là, présents. Vous voyez, vous avez les deux ici, et le troisième est un peu plus loin. Il faut le chercher, n'est-ce pas ? Parce que les exégètes ne nous l'indiquent pas. Chapitre 15. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. Alors, ça, on le verra, ce troisième signe, chapitre 15. Entrons d'abord dans les deux premiers signes. Alors ça, vous connaissez bien ce texte qui est si beau et si grand. Il a paru un grand signe dans le ciel. Et c'est toujours un grand signe. Et ce signe est grand pour que on ne le dépasse pas. On s'y arrête. C'est pour ça, un signe, un grand signe. Un grand signe dans le ciel. Donc, un signe qui ne peut être vu que dans une lumière contemplative. S'il n'est pas vu, s'il n'y a pas cette lumière contemplative, on ne le voit pas. C'est important de souligner ça. Cana est le premier signe, mais ce n'est pas un signe dans le ciel. C'est un miracle, la transformation de l'eau en vin. Ce n'est pas un signe contemplatif. C'est un signe dans le temps, dans un lieu. Tandis que celui-là, c'est un signe dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Enveloppé du soleil. Le soleil, c'est le Christ. Enveloppé de tout l'amour du Christ. Et la lune sous ses pieds, elle touche notre terre. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Et elle est enceinte. Et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Vous voyez, dans le même regard, on voit la maternité divine de Marie à l'égard de Jésus et la maternité divine de Marie à l'égard de l'Église. C'est dans le même regard. Alors ça, c'est très important. Hein, parce que ça nous fait comprendre l'inspiration de l'Apocalypse. Alpha, Oméga, même regard. Toujours. C'est donc bien toujours la théologie de l'économie divine. Vous voyez bien que ce symbolisme de la femme. La femme, elle est liée à la maternité. Et cette maternité est double. Elle regarde le Verbe devenu chair. Et le Verbe qui étant devenu chair à la croix. Mère de l'Église. C'est le même symbole qui contient ces deux maternités. Comprendre le caractère divin de ces deux maternités enveloppées du soleil et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Il est apparu un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon, rouge feu. Donc il y a une petite parenté avec le cheval rouge feu. Vous voyez tout de suite les parentés. Il y a quelque chose de commun. Ayant sept têtes et 10 cornes. Ah, tout de suite, on voit ce grand dragon complètement déséquilibré. Il a 7 têtes. Il a toute son intelligence angélique. Mais il a 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Voyez, 2 signes dans le ciel. Donc 2 signes qui sont éternels, qui sont actuels. Et ces 2 signes sont en contradiction, d'une certaine manière, en opposition. Le dragon. Et on verra plus loin, pas très loin, que le dragon, c'est l'antique serpent. Que le dragon, c'est l'adversaire. Il a 3 noms. Il est anti-trinitaire. Parce qu'il s'oppose à Dieu. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que ces 2 signes célestes, vus dans le ciel, vont nous donner l'intelligibilité du grand combat. C'est une réflexion pour comprendre pourquoi le combat, pourquoi la sixième trompette, pourquoi les 7 trompettes, pourquoi la lutte, pourquoi ce combat. C'est que il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Et cette inimitié prend son sommet dans la lutte du grand dragon face à la femme. C'est ça qui est si important dans ce chapitre 12. C'est qu'il nous donne l'intelligibilité du combat et de la lutte qui existe dans l'Église et dans le monde actuellement. Ce n'est pas une petite lutte. Ce n'est pas une lutte qui peut se comprendre historiquement. Ce n'est pas une lutte qui peut se comprendre uniquement par des jalousies humaines. Non. C'est une lutte qui ne peut se comprendre que dans un regard contemplatif. Un signe dans le ciel. Et qui ne peut se comprendre qu'en regardant la femme et le dragon. La femme exprime en premier lieu Marie. C'est très curieux, toutes les interprétations qui ont été faites sur la femme. Ce qui est à peu près sûr, c'est que maintenant, depuis 50 ans, à peu près, les meilleurs exégètes de Saint Jean et d'Apocalypse disent tous que le symbolisme de la femme, c'est en premier lieu Marie. Et donc, la lutte est entre le dragon, le démon, et Marie. Toute la signification de la lutte, c'est ça. Alors, vous voyez, comme cela jette une très grande lumière. Si on ne voit pas ça, on ne comprend rien aux luttes qui existent actuellement dans l'Église et dans le monde. Ça, c'est la lumière contemplative, la lumière divine. Évidemment, je ne peux le dire que dans la lumière divine, que dans la foi. C'est Marie, c'est l'Église. La femme, c'est l'Église. Comme Marie, c'est l'Église. Et c'est la créature. La créature dans sa plus grande vulnérabilité. La femme. La femme, chef-d'œuvre de Dieu. La Benjamine. Parmi les créatures de la Benjamine. Donc, celle qui porte le secret du Dieu créateur, et celle qui connaît la plus grande vulnérabilité, parce qu'elle est celle qui connaît la plus grande capacité d'aimer. Alors, on est en présence, vous voyez, ce symbole, Marie, l'Église, la créature, ça qui est merveilleux, la femme c'est nous. En tant que la créature la plus vulnérable, en tant que l'Église, en tant que Marie. Et le combat se fait toujours, puisque c'est un combat céleste, démoniaque, à l'égard de la femme Marie, qui est la vie contemplative. Sa maternité est contemplative. Sa maternité est divine. C'est une maternité de foi, d'espérance et d'amour. Cette parole de saint Augustin qui est si forte à propos de Marie, elle a d'abord conçu le Verbe fait chair dans son cœur avant de le concevoir dans sa chair. Prius concepit incordé, quam incarné. Et c'est cette lutte contre la contemplation de Marie, contre la contemplation, l'Église en tant que contemplative, et la créature en tant que capable de contemplation, que le dragon s'oppose. Il a perdu la contemplation, il n'a qu'un seul désir, c'est que la contemplation disparaisse dans l'Église, disparaisse dans le cœur des créatures. Oui, c'est ça qui me semble extrêmement important à saisir et qui est net.